L'une de mes toutes premières interviews, bien avant la création de Volant, date de 2011. J'étais à San Francisco et j'avais eu la chance de croiser la route d'un des fondateurs de Airbnb. Si vous cherchez sur un moteur de recherche, vous verrez que je n'étais pas très doué à l'époque d'ailleurs. Mais j'étais impressionné et ravi car j'ai toujours trouvé la capacité de Airbnb à créer une communauté de partage vraiment incroyable. Et donc depuis, l'appartement dont je suis propriétaire a toujours été sur Airbnb pour les moments où je suis en vacances ou simplement absent, car cela me permet d'arrondir les fins de mois. Avec ce supplément de revenus, je peux partir en voyage au Japon en 2016 par exemple, sans doute l'un de mes plus beaux voyages. Donc si vous avez une chambre de libre ou si vous partez en week-end, vous avez sans doute vous aussi un Airbnb. Pour découvrir combien pourrait vous rapporter votre logement, rendez-vous sur airbnb.fr/hôte. C'est airbnb.fr/hôte. H-O-T-E. Allez, place à l'épisode maintenant. Quand on regarde comment fonctionne le monde, on pense naturellement à la manière dont on consomme, mais aussi à la manière dont les produits et les services sont designés. Et vous n'avez sans doute pas pu ignorer l'augmentation de l'utilisation de l'expression circulaire, économie circulaire. Et aujourd'hui, je discute avec Jules Coignard, qui est le cofondateur de Circule Air et qui est spécialisé sur cette économie circulaire. Et avec lui, on va discuter justement d'exemples d'entreprises qui peuvent avoir des impacts, mais aussi de pourquoi c'est pertinent de penser de cette manière, et enfin, quel rôle peuvent avoir les individus là-dedans. C'est-à-dire, parce qu'on se pose tous aussi un peu la question de ben, moi, comment je peux faire à mon niveau. Et bien, Jules vous répond avec son prisme de l'économie circulaire, évidemment, qui est extrêmement intéressant, forcément. Donc, je vous laisse avec cette conversation. Allez, Volant, c'est parti. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Jules.
Bonjour Greg.
Il y a beaucoup de personnes qui se demandent comment avoir un impact, comment ils peuvent faire pour faire face au changement climatique, comment à leur niveau ils peuvent faire. Et puis évidemment, on se pose la question aussi des entreprises. Et une des choses dont on parle beaucoup, c'est l'économie circulaire. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement ce que c'est que, enfin rapidement, pas nécessairement rapidement d'ailleurs, ce que c'est que l'économie circulaire?
Très bien, mais écoute, je vais le faire et rapidement et pas rapidement. La première définition que je donnerai en une phrase, c'est l'utilisation intelligente des ressources naturelles pour vivre dans un monde sans déchets. Et si je veux te donner un petit peu plus de contexte là-dedans, on dit souvent qu'on s'est développé dans une industrie linéaire, donc dans une économie linéaire depuis notamment la révolution industrielle. Pourquoi ? Parce qu'on prend les ressources, on les transforme, on les utilise souvent un temps très court, puis on les jette. Donc tu imagines bien, tu visualises assez bien la ligne.
Bien sûr.
Deux grandes problématiques associées. La première, c'est évidemment l'épuisement des ressources naturelles. Tu as dû entendre parler du jour du dépassement.
Mm-hmm.
C'est le jour dans l'année où on a utilisé l'intégralité des ressources que la Terre a mis à notre disposition. Cette journée est de plus en plus tôt dans l'année, exception faite avec cette année Covid qui montre qu'on a utilisé un petit peu moins de ressources que d'habitude. Mais globalement, on utilise une planète et demie de ressources par an, ce qui est absolument pas durable. On peut imaginer qu'un jour, la Terre viendra nous demander de payer nos dettes sur la partie ressources. Et de l'autre côté, évidemment, tu as toute la production exponentielle de déchets avec tous les impacts environnementaux, sociaux et économiques que ça peut représenter, puisque ça coûte de plus en plus cher de jeter. Donc on arrive vraiment un petit peu à essoufflement de ce modèle. Et l'économie circulaire, justement, se propose un petit peu de réinventer tout ça et de faire fonctionner l'économie sous forme de boucles, avec différentes typologies de boucles. Les nutriments biologiques, d'un côté, donc tout ce que tu vas pouvoir faire revenir à la terre par méthanisation, compost ou autre. Et aussi les nutriments techniques. Et là, on va avoir différents types de boucles. Des boucles courtes comme la réutilisation, la réparation, le remanufacturing, et une boucle un petit peu plus longue qui est le recyclage. Donc le but, ça va être vraiment de tout laisser dans le circuit économique et de ne plus produire de déchets.
Ça se rapproche beaucoup du biomimétisme en fait, quelque part, non?
Alors c'est le biomimétisme, donc comment s'inspirer de la nature pour résoudre des challenges humains est un énorme contributeur de l'économie circulaire. Il y a beaucoup de parallèles qui peuvent en être faits. On avait passé d'ailleurs 3 jours avec Claire Claire Janine, pardon, en Afrique du Sud, qui est l'experte sud-africaine du biomimétisme, et qui était, c'est absolument superbe de voir comment justement on peut s'inspirer de la nature pour vivre dans un monde justement qui utilise moins de ressources et qui produit moins de déchets. Et donc je suis absolument un grand fan de ce concept et qui peut effectivement être appliqué autant au niveau des entreprises que des personnes elles-mêmes.
Parce qu'effectivement, la nature ne génère par essence aucun déchet en fait. C'est-à-dire que tout est réutilisé. C'est-à-dire que un corps humain, par exemple, qui meurt, et quand on dit ton corps retourne à la terre, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'en fait, il devient du ferment pour les plantes, etc., etc. Et en fait, c'est hyper intéressant de voir que tout est réutilisé. Il n'y a absolument pas de déchets naturels en fait.
Au sens littéral du terme, comme tu le dis, c'est en fait, j'aime bien dire que si la nature était un système économique, ce serait le système économique le plus parfait qui existe. Parce que tout est absolument optimisé dans la nature. Et ça a été fait parce que des mécanismes ont été mis en place depuis des millions, des centaines de millions d'années. Donc on peut se dire que finalement la nature, c'est un laboratoire de R&D qui fonctionne depuis des milliards d'années. Et donc effectivement, la nature est le système de circularité le plus parfait qui existe. Il n'y a pas de ramassage de déchets dans la nature. Tout fonctionne en symbiose parfaite et chaque output d'une espèce devient l'input d'une autre espèce. Ce qui fait que finalement, la nature, elle peut fonctionner de cette façon-là pendant des millions, milliards d'années. En plus, elle va avoir tendance à s'adapter avec beaucoup de résilience, un mot dont on parle beaucoup aujourd'hui, ce qui n'est pas le cas de notre économie actuelle, comme on peut le remarquer.
Juste pour mémoire, et parce que les gens ne le savent pas nécessairement, souvent on compare l'arrivée de l'humain sur la planète à une journée de 24 heures. Donc si l'existence de la planète Terre, c'est 24 heures, il me semble que l'arrivée de l'homme sur la planète, c'est à la minute... c'est 60 minutes, pardon. Ouais. C'est à la minute 58, 30 secondes, quoi. Donc, ça veut dire qu'en fait, on a existé pendant 1 minute 30 secondes pour donner un ordre d'idée sur l'existence de la planète et que l'ère industrielle, donc les 150 dernières années, c'est même pas un clignement d'œil. C'est-à-dire qu'en fait, c'est extrêmement faible. Donc, en fait, quand on parle de ressources fossiles et quand on regarde la manière dont l'économie fonctionne, les ressources fossiles, elles sont fossiles parce que effectivement, ce sont des fossiles, en fait. C'est-à-dire que ça a pris des millions d'années à se créer. Et nécessairement, quand tu dis, on utilise une planète et demie, c'est de comprendre que ces ressources, elles mettent des millions d'années à se créer. Il va pas y en avoir de nouvelles avant quelques millions d'années, quoi. Ça va pas être possible, en fait.
Ouais. Ah, c'est ça qui est fou, hein. C'est ce déséquilibre qu'on a pu créer en aussi peu de temps. C'est aussi, je trouve, en tout cas personnellement, le fait de croire que justement on va pouvoir changer aussi les choses rapidement. De toute façon, on n'a plus trop le choix. Et tu parlais des ressources, hein. Il y a beaucoup d'études qui sortent. Bon, alors, les dates sont assez controversées, mais on peut imaginer qu'il y aura plus d'or d'ici une dizaine d'années, plus de cuivre d'ici 30 ans, plus de fer d'ici 50 ans. Enfin, c'est vraiment se dire, même si c'est un petit peu décalé, même si on trouve d'autres réserves, c'est se dire que finalement, on est en train de vivre l'épuisement des ressources naturelles et qu'on va avoir un besoin fondamental de s'adapter à ça, autant d'un point de vue de la vie sociale que d'un point de vue économique, puisque les entreprises reposent bien souvent sur des ressources qui sont finies.
Ouais, d'ailleurs, c'est marrant, j'avais une discussion avec des amis hier et ils étaient choqués quand je leur expliquais qu'en fait, il n'y avait plus de sable. Ouais. J'ai dit, pour construire des immeubles, etc., il n'y a plus de sable.
Le sable, c'est une des denrées les plus catastrophiques dans notre utilisation actuelle, notamment par la construction. Mm-hmm. Et effectivement, on est en pénurie complète de sable et on a du mal à trouver des modèles de construction alternatifs. Et pourtant, il y a beaucoup de R&D qui sont en train de se faire dans ce domaine-là, mais effectivement, c'est typiquement un exemple criant de cet épuisement des ressources et de notre nécessité aujourd'hui de nous adapter à cette nouvelle donne.
Mais pourtant, ils vont te dire, mais quand je vais sur la plage, il y a du sable. Sous la mer, il y a du sable. Oui, mais... enfin, bref.
Sachant que le sable aussi, hein, c'est un process écologique qui met très longtemps à se créer. Et que du coup, nous, on est en train de l'utiliser de manière absolument pas durable. On va se confronter à une rupture assez proche.
Alors, pour revenir sur l'économie circulaire, est-ce que tu as des exemples, patents, d'entreprises peut-être on va commencer par les entreprises et puis peut-être après, on pourra parler des pratiques individuelles d'entreprises qui font des choses dans ce sens-là.
Oui, tout à fait. Il y a différentes entreprises qu'on peut citer là-dedans. Je vais t'en parler une. En fait, on dit qu'il y a différents piliers dans l'économie circulaire. Il y a quelque chose qui est fondamental de comprendre, c'est que l'économie circulaire, il y a énormément de choses qui se jouent au niveau du design des produits. On avait d'ailleurs rencontré un entrepreneur qui nous avait dit le déchet, c'est une erreur de design. Mmh. C'est une phrase qu'on a beaucoup aimée. C'est se dire, si on designait les choses intelligemment, c'est-à-dire en pensant déjà à leur utilisation et leur fin de vie, on peut déjà résoudre une grande partie de la problématique. Et on a rencontré, j'ai fait un tour du monde de l'économie circulaire, on avait rencontré Fairphone en Hollande, qui est donc une start-up néerlandaise, qui à la base d'ailleurs était une association qui luttait contre l'obsolescence programmée et qui résistait beaucoup contre ce que pouvaient faire Apple, Samsung et beaucoup d'autres dans la téléphonie. Et eux sont positionnés justement au bout d'un moment en se disant, bah, nous on va nous-mêmes produire un téléphone qui va être à la fois éthique et à la fois circulaire. Donc pourquoi il est circulaire, c'est que finalement ce téléphone il a été conçu comme un Lego. Toutes les pièces, donc on a différents modules sur le téléphone, ce qui permet déjà à l'utilisateur de le réparer lui-même avec un tournevis YouTube et un tutoriel YouTube de quelques minutes. Et ce qui fait aussi que quand le téléphone va être updaté, donc ils ont sorti le nouveau module d'appareil photo, de changer le téléphone lui-même, on peut soit évidemment garder son appareil photo parce qu'on en est content, soit si vraiment on a des besoins professionnels ou autres d'évoluer, on peut racheter uniquement le module de caméra, ce qui réduit de 95% l'impact versus changer son téléphone. Donc ce qui va avoir comme impact l'allongement de la durée de vie du produit.
Et en fait, c'est marrant quand tu dis ça, on se dit mais effectivement, pourquoi tous les constructeurs ne font pas ça en fait? Parce que c'est tellement logique que ça semble évident en fait.
C'est le plus tu creuses le sujet, je trouve, hein, en tout cas de l'économie circulaire, le plus souvent c'est la question qui revient en fait. Pourquoi tout le monde ne fait pas ça? Alors si on rentre là-dedans, je pense qu'il y a différentes raisons à ça. Il y a différents freins qui existent sur la mise en place de l'économie circulaire, et c'est un peu la même chose sur le biomimétisme. Je pense que le premier frein qui existe, c'est le frein au niveau des mentalités. C'est-à-dire que tu vas te confronter à des êtres humains qui ont fonctionné sur un certain type pendant des années, on va dire pendant même 150, 200 années depuis la révolution industrielle. Donc c'est très compliqué de faire évoluer les mentalités et changer la manière de faire les choses. La deuxième aussi, ça va être je pense c'est un gros problème au niveau de l'entreprise, c'est la vision court terme versus la vision moyen-long terme. Et là, tu vas te confronter à des problématiques et des mécanismes d'entreprise, notamment d'actionnariat parfois, où on va avoir des besoins et des objectifs de rentabilité très court terme, alors que parfois l'économie circulaire va te permettre d'obtenir de la rentabilité plutôt sur moyen-long terme. Et donc tu vas avoir besoin vraiment d'avoir des leaders qui vont avoir une vraie vision et qui vont permettre à l'entreprise d'évoluer. T'as Interface, je sais pas si tu connais, qui est une entreprise américaine de moquettes, qui a été fondée par Ray Anderson aux États-Unis. Et en fait, qui a fonctionné pendant très longtemps sur un modèle classique linéaire. Donc la moquette, tu parles de pétrole, pétrochimie, et tu fais de la moquette qui en fin de vie est enterrée ou brûlée. Et dans les années 90, il a eu une vraie révélation sur l'environnement, sur l'économie circulaire, notamment en lisant les livres The Ecology of Commerce de Paul Hawken, qui montraient déjà comment un petit peu on pouvait réconcilier l'écologie et le business. Et Ray Anderson, en 94, il fait une déclaration devant tous ses actionnaires et il dit, aujourd'hui, je suis pas là pour vous parler de l'entreprise, je suis là pour vous parler de la planète et elle va mal. Il explique tout son plan pour arriver à être neutre en carbone en 2020. Donc, il fait vraiment un plan d'entreprise super ambitieux sur 25 ans et qui passe par le co-design de la moquette, l'utilisation de biomatériaux et énormément de choses qui vont être mises en place sur les 25 années. Et qui montre qu'aujourd'hui, Interface, c'est 1 milliard de chiffre d'affaires, c'est leader mondial de la moquette en B2B, et qui te montre que justement, si tu as la chance d'avoir un leader qui a cette vision-là et qui te permet de mettre ça en place dans l'entreprise, tu peux devenir un leader économique au même titre qu'avoir un impact environnemental positif.
Bon, déjà, je suis content que tu prennes pas comme exemple Patagonia et Veja.
qui sont deux entreprises que j'aime bien.
Ah, mais moi aussi, j'adore. Simplement, c'est toujours un peu compliqué parce que c'est toujours les mêmes histoires, en fait. Donc,
tout à fait.
Mais effectivement, et ce que tu dis, ça me semble très vrai. Moi, j'ai tendance à dire il faut qu'on ait des leaders et pas des gestionnaires. Souvent, un gestionnaire, il fait en sorte de gérer la boîte comme il peut. Donc, il continue sur une certaine lancée. Et puis, il y a les leaders qu'on retrouve plutôt dans les petites structures et moins dans les grosses boîtes ou dans les startups potentiellement, et qui prennent des risques en fait. Et ça, c'est vraiment ce dont on a besoin. Enfin, je ne sais pas si c'est une prise de risque en réalité, mais c'est au moins prendre des décisions fortes. En anglais, on dirait bold. C'est vraiment de ça qu'il s'agit, quoi.
Bah, je suis 100% d'accord. Et encore une fois, c'est vrai que à chaque fois que tu as des entreprises où finalement le leader, on va dire, a des parts significatives de l'entreprise, il va pouvoir décider en ayant une vision moyen terme. Et donc, tu vois, il va pouvoir prendre des risques entre guillemets court terme parce qu'il sait qu'à moyen long terme, ça va être absolument rentable pour l'entreprise et en plus rentable pour l'environnement. C'est plus compliqué dans les grandes entreprises. Dans les grandes entreprises, tu vas retrouver, et on travaille beaucoup avec elles, tu retrouves beaucoup de personnes qui ont cette vision, qui peuvent avoir ce leadership. Le problème, c'est qu'ils vont être confrontés aux objectifs très court-termistes de l'entreprise. C'est très compliqué de réconcilier les deux. Et je pense qu'aujourd'hui, d'ailleurs, les grands groupes, s'ils n'arrivent pas à se réinventer, s'ils n'arrivent pas à avoir cette vision-là suffisante et avoir trop une vision court-terme, il y a des grands risques qui disparaissent dans les 10, 15, 20 années qui arrivent.
Est-ce que, donc on a parlé là de Fairphone et de cette entreprise de moquette dont j'ai oublié le nom, pardon.
Interface.
Est-ce que tu as d'autres exemples qui peuvent être parlants pour les gens? Parce qu'en fait, quand tu parlais de design, moi je suis aussi extrêmement d'accord avec ça. Je trouve qu'on reproche beaucoup aux consommateurs leur impact, alors qu'en fait ils sont d'abord, un, incapables de le mesurer, et de deux, ils utilisent les produits qu'on leur a donnés comme ils le peuvent. C'est-à-dire que, ben, par exemple, pour reprendre l'exemple du téléphone, si tu prends un téléphone où tu ne peux pas remplacer la batterie, ben, en fait, une fois que la batterie elle est morte, en vrai, ce qui va se passer, c'est que tu vas changer de téléphone. Alors, il y a un aspect plaisir, hein, dans le fait de changer de téléphone. Tu vois, ça génère un petit peu, j'imagine, de bonheur, en tout cas dans ton cerveau. Mais c'est vrai qu'il y a une grosse partie de design. Moi, j'ai entendu parler de cette douche qui recycle 90% d'eau, tout simplement parce qu'en fait, une fois que l'eau elle tombe, elle revient dans le tuyau, elle est nettoyée de tes germes qui sont sortis de ton corps et elle est réchauffée pour t'être resservie. Et donc voilà, tu économises 90% d'eau comme ça. Ça, c'est du design et ça permet. J'ai passé de l'économie circulaire, mais il y a une forme de circuit là-dedans. Est-ce que tu as d'autres exemples qui peuvent être intéressants pour comprendre justement et pour permettre aux personnes de se projeter en disant « Ah mais oui, en fait, voilà les genres de produits que je devrais consommer ou en tout cas l'attention que je devrais porter quand j'achète un produit, finalement. »
Ouais. Bah déjà, tu mets le doigt sur quelque chose, hein, le fait que le consommateur, par son acte d'achat, peut avoir de l'impact. Mm-hmm. Il vote, hein, finalement, en achetant. J'ai énormément d'exemples, donc je suis ravi de t'en donner quelques-uns.
Ah
bah
vas-y.
On parle de design, comme je te disais. Et dans le design, on va beaucoup regarder le type de matériaux qu'on va utiliser. Il y a aujourd'hui énormément de nouveaux matériaux qui sont en train de sortir pour justement sortir du tout plastique qui est arrivé dans les années, on va dire, 80, et notamment du plastique à usage unique qui est une vraie problématique aujourd'hui. Mm-hmm. Pour donner peut-être deux exemples de nouveaux matériaux, il y en a un, c'est Ecovative, c'est une startup new-yorkaise qui a créé un matériau à base de champignons. C'est-à-dire que tout simplement, ton champignon va pousser sur du déchet organique, il pousse dans un moule, il va prendre la taille du moule, il l'enlève, il le met très rapidement à réchauffer juste pour arrêter la croissance du champignon. Et ensuite, tu vas voir, donc, je ne sais pas si tu imagines un petit peu l'objet, mais ça aura pris la taille du moule, donc tu peux lui donner la forme que tu veux. Et ça va venir remplacer du polystyrène expansé, par exemple, si on parle de packaging. Tu as des grandes entreprises américaines qui l'utilisent pour... comme packaging de leurs ordinateurs, par exemple. Ça peut avoir énormément d'impact. Peu à peu, ils sont en train de regarder maintenant pour évoluer vers la construction. Mais le gros avantage de ce packaging, c'est que déjà, ils captent du carbone quand ils poussent, ce qui est complètement différent d'autres types de matériaux qu'on va pouvoir utiliser. Donc, il va capter du carbone, il va être carbone positif. Et ensuite, la fin de vie de ce packaging aussi, c'est qu'il est absolument compostable. Tu vas pouvoir le mettre dans un compost, pour le coup dans un home compost en plus. Je pourrais te faire la distinction très rapidement.
Ouais.
Il va pouvoir revenir à la terre. Je vais te parler d'un autre exemple, pareil toujours aux États-Unis, qui est New Light Technology, qui est un peu la success story à l'américaine, deux anciens de Princeton dans leur garage qui font plein d'expérimentations pendant 10 ans et qui arrivent ensuite à un nouveau process industriel qui permet de transformer le carbone et le méthane en ce qu'ils appellent le air carbone, donc un nouveau matériau. Donc c'est un matériau, c'est un bioplastique qui est entièrement composé à partir de carbone. Donc pareil, ça vient, enfin tu vois bien déjà l'intelligence du système, c'est-à-dire qu'ils sont payés pour récupérer leur matière première qui va être des bonbonnes de méthane et de carbone. Mmh. Ils le pluguent sur leur système industriel, ils en récupèrent de la poudre. Ensuite, ils transforment ces poudres en ce qu'on appelle les billes de plastique, les pellets de plastique, qui va être ensuite injecté dans différentes industries. Et donc là, je fais un petit aparté sur justement tous ces nouveaux matériaux qui arrivent. On parle beaucoup des bioplastiques notamment. Il faut juste bien faire attention quand on parle de bioplastique à qu'est-ce qu'on utilise pour faire ce matériau. Est-ce qu'on utilise une denrée alimentaire? Est-ce que, je caricature, mais est-ce qu'on va déforester l'Amazonie pour faire pousser du maïs, du soja?
Oui, c'est ça.
Et ensuite utiliser ça comme bioplastique. Donc, faut bien faire attention à l'amont et faut faire très attention à la fin de vie aussi. Souvent, on dit bioplastique compostable, donc on pense que ça va se composter de manière classique dans la nature. Il y a deux types de compostage, et en général, les bioplastiques, ils sont industrial compost. Ça veut dire qu'ils sont ils sont potentiellement compostables, mais de manière industrielle uniquement. Et donc, ils vont être compostés uniquement à des taux de chaleur et d'humidité suffisants. Donc, il faut faire très, très attention quand même à ces deux aspects. C'est quelque chose qui est en train de se développer. Pour l'instant, les filières n'existent pas vraiment. Et donc, toutes les entreprises qui regardent ça aujourd'hui, elles se posent quand même énormément de questions, et à juste titre, de l'utilisation des ressources et de la fin de vie.
Et en fait, dans ce que tu décris, effectivement, moi, la première question que je me posais sur par exemple, les champignons, en se disant, c'est super, on devrait avoir tous nos packagings en champignons de cette manière-là, etc., etc. Et du coup, ça veut dire quand même, d'une certaine manière, de faire de la monoculture de champignons d'une certaine mesure. Enfin, je sais pas. En tout cas, j'ai la sensation que ça pourrait avoir des effets délétères si on faisait un petit peu exactement ce que tu disais, comme avec le maïs ou avec le soja dans l'Amazonie, et de détruire des forêts pour faire pousser des champignons pour pouvoir faire des packaging en réalité.
Ah, il faut, en fait, c'est ça qui est compliqué, hein, c'est qu'il n'y a pas de solution très simple. Donc, il faut toujours se pencher sur les sujets, comprendre l'impact de tout ce qui est fait. Mais tu as raison dans le sens où il faut faire très attention du type de ressources qui va être utilisée. Donc, je parlais de l'économie circulaire, utiliser le moins de ressources possible et utiliser des ressources alternatives, mais bien comprendre tous les impacts des ressources qu'on va utiliser pour faire ces produits. Donc, l'avantage du champignon, c'est que, a priori, on peut en faire pousser en abondance, on peut en faire pousser dans des zones fermées qui vont pas avoir d'impact sur la biodiversité. Mmh. Donc, ça peut quand même être une bonne solution. Je vais donner un autre exemple qui est AgriProtein. C'est une startup sud-africaine qui met des larves de mouches sur du déchet organique. Ces larves, elles vont se démultiplier. Et ça va avoir trois impacts. Le premier, c'est évidemment le déchet organique qui est transformé en compost, en fertilizer, qui va être distribué ou vendu à des agriculteurs. Ensuite, tu vas pouvoir utiliser l'insecte en tant que tel, puisque 1 kilo d'insectes, en 3 jours, c'est 350 kilos d'insectes qui se démultiplient. Donc, tu fais, en fait, de la production d'insectes tout en traitant tes déchets organiques. Et ces insectes, tu vas pouvoir en faire de la poudre qui va pouvoir nourrir la pisciculture, par exemple. Quand on sait quand on nourrit la pisciculture avec de la surpêche et des petites espèces pélagiques, il y a tout un tas, on va dire, d'impact positif d'un point de vue environnemental. Tu peux aussi presser les insectes pour en récupérer de l'huile, etc. Et donc, tu vas pouvoir, à partir d'un déchet, créer de multiples produits et créer de multiples impacts positifs. Mmh. Mais encore une fois, il faut toujours se poser la question, effectivement, du cadre et de l'impact. Et c'est un réflexe systématique qu'on a besoin d'avoir quand on veut faire de l'économie circulaire.
Et je te fais un clin d'œil, mais cette poudre d'insectes, en fait, c'est aussi les protéines que les humains vont manger bientôt. Hein. C'est-à-dire que...
en parle beaucoup, hein. Ouais, tout à fait.
Je pense que, parce qu'en fait, il y a la production, la production de viande, parce qu'il n'y a pas d'autres mots pour expliquer ce que l'on fait actuellement, ça va nécessairement avoir des impacts hyper forts sur...
Ça en a, hein, d'énormes.
C'est ça.
En termes de contribution de CO2, d'utilisation d'eau. C'est effectivement... On sait qu'on a une alimentation qui est trop forte en viande, notamment en viande rouge, et on sait que malheureusement, ce système, en tout cas, utilise... a d'énormes impacts et de multiples impacts sur l'environnement, et qu'on a besoin de changer son alimentation. Et effectivement, les insectes, c'est un sujet qui revient beaucoup. Alors, il y a des sujets légaux associés, mais on commence à nourrir nos chiens, par exemple, avec des insectes. Il y a une startup française qui fait ça. On commence à se diversifier vers ce type d'alimentation. Pour avoir vécu au Mexique, d'ailleurs, on mange des sauterelles et c'est pas si mauvais.
et justement, ça me permet de faire la transition quand même avec... donc là, on a parlé un peu des entreprises qui modifient leur packaging, qui font des recherches. Et tu vois, si tu es un petit peu de mauvaise foi, tu peux te dire, finalement, moi, je peux consommer... Je peux continuer à consommer, finalement, c'est pas ma responsabilité, c'est la responsabilité des entreprises qui doivent modifier la manière dont elles produisent les choses. Et moi, finalement, ça me regarde plus ou moins, en fait. Et là, c'est là où on arrive à, au niveau individuel, il y a aussi des efforts qui doivent être faits, évidemment. Est-ce que tu peux parler de ça un petit peu?
Ouais. C'est, de toute façon, si les entreprises changent, c'est parce que les gens qui composent les entreprises et les gens qui consomment changent également. Donc, en fait, tu peux absolument pas t'affranchir des deux. Et en fait, il y a un vrai triptyque qui existe entre les entreprises, le gouvernement et, on va dire, les individus, qui fait que peu à peu, on peut créer une inertie qui va transformer la société. Et donc, pourquoi les entreprises changent ? Parce que les consommateurs changent, parce que les employés changent. Pourquoi les gouvernements changent ? Parce que les gens qui votent sont en train d'évoluer. Et tout ça, en fait, et ensuite, une fois que les entreprises font des produits plus circulaires, bah, les gens vont plus en consommer. Et donc, tu vas en rentrer dans un circuit vertueux. Au niveau individuel, je pense qu'on peut agir principalement à deux niveaux. En fait, tu peux, et je vais refaire le lien avec l'entreprise dans un premier temps, désolé, mais
non,
tu
bien
peux
sûr.
En tant qu'individu, en fait, et en tant que collaborateur dans une organisation, quelle qu'elle soit, tu peux avoir ton impact. C'est-à-dire par la façon dont tu vas agir, que ce soit dans ton entreprise, au sein d'une collectivité, à l'école, de la façon dont tu vas instruire, enfin, à tous les niveaux, en fait, quelle que soit ton activité, tu vas pouvoir avoir, en tout cas, tu peux te poser la question de la façon dont tu fais ton métier et comment tu peux la faire évoluer positivement. Donc ça, je pense que c'est absolument fondamental et c'est le premier point, c'est que déjà, tous individus au sein d'organisations, comment on peut faire évoluer notre façon de travailler. Ça, c'est le premier impact et qui peut être absolument fondateur. Et d'ailleurs, aujourd'hui, un des grands drivers qui font que les entreprises évoluent, c'est que les personnes au sein des entreprises demandent d'avoir plus d'impact. Les jeunes diplômés, il y en a que 25% aujourd'hui qui veulent aller dans des grands groupes parce qu'ils veulent aller dans des entreprises avec plus de sens. Donc ça, c'est vraiment une des grosses façons aussi de faire évoluer les entreprises. Et ensuite, le deuxième sujet, c'est d'un point de vue du individu, mais d'un point de vue plus consommateur. Et alors là, il y a énormément de choses qui peuvent être faites. Et la principale, c'est ton acte d'achat. Puisque ces entreprises, elles fonctionnent parce qu'il y a un consommateur quelque part qui est là en bout de chaîne, qui va faire le choix de ce produit. Et évidemment, c'est pas simple parce qu'il y a énormément de choses qui existent. On en a parlé tout à l'heure, que ce soit avec les bioplastiques ou autres. Parfois, les solutions sont pas si évidentes. Mais le consommateur, je trouve, a le devoir au moins de réfléchir à son acte d'achat. Et ensuite, de le faire en tout état de cause, sachant que oui, il y aura le prix à prendre en compte, oui, il y aura l'impact environnemental et pas mal d'autres choses. Et la bonne nouvelle aussi, c'est qu'il y a de plus en plus d'informations qui est mis en œuvre sur les produits qui va faciliter l'acte d'achat. Et ça, c'est aussi mis en place par la législation, tout comme par des startups comme Yuka ou d'autres que tu dois connaître, qui fournissent de plus en plus d'informations au consommateur et qui va lui permettre de faire un choix éclairé lors de son acte d'achat. Et donc ça, je pense que ce sont principalement les deux piliers que peuvent faire les individus à leur niveau.
Donc vraiment s'informer, mais alors comment, parce que s'informer, les gens, ils vont te dire, moi j'aime pas cette expression les gens, mais les personnes risquent de te dire, mais moi j'ai pas le temps de m'informer de tout ça, c'est trop compliqué, et c'est vrai que comme on n'en parle pas vraiment aux informations non plus, c'est pas central, je veux dire, c'est un sujet central, on parle du risque climatique. Et encore, on en parle beaucoup finalement en Europe, mais finalement, j'ai la sensation que c'est pas, enfin, on n'aide pas vraiment les consommateurs là-dedans, à moins que ce soit des consommateurs qui cherchent vraiment l'information. Mais au quotidien, il y a des normes dans tous les sens, tu vois, entre label rouge, label bleu blanc cœur, alors que ça n'a rien à voir avec les... ça n'a pas grand-chose à voir. Mais n'empêche que, tu vois, tu as des tonnes de labels. Est-ce que ce ne serait pas à l'État d'être radical un petit peu et de faire une norme et d'interdire, par exemple, j'en sais rien, les plastiques non renouvelables, comme tu en parlais. Alors en France, je sais qu'on a fait un mouvement dans ce sens-là, mais qui est tellement loin que du coup, il n'y a pas vraiment de mouvement. Est-ce que ce n'est pas à l'État, justement, de forcer les entreprises, plutôt que d'attendre que ça vienne des consommateurs, à avoir des matières qui sont circulaires?
Alors, c'est un mix, hein, encore une fois, c'est ce fameux triptyque dont je parlais, où les entreprises ont leur rôle à jouer, les individus ont leur rôle à jouer et l'État a son rôle à jouer. Et donc, si on parle de l'État, évidemment que l'État peut avoir un fort impact, et on l'a vu lors de l'arrivée de la Covid, hein, où il y a eu des mesures extrêmement fortes qui ont été prises, et on s'est rendu compte qu'on pouvait prendre des mesures fortes dans certaines situations. Et je pense qu'on a besoin de faire un petit peu la même chose aujourd'hui sur l'environnement. Je pense aussi que c'est un process qui... malheureusement prend du temps et c'est normal, même si on se retrouve dans une urgence climatique qui fait qu'on devrait aller un petit peu plus vite. Mais je pense que ça va prendre du temps et je trouve quand même qu'on va dans la bonne direction. Tu vois, tu parlais de la législation. Alors effectivement, il y a certains objectifs qui sont à 2040, d'interdiction de plastique à usage unique et d'autres. Mais il y a quand même des mesures qui ont été prises. Tu vois, on a une loi AGEC, donc anti-gaspillage sur l'économie circulaire en France depuis début 2020, qui quand même envoie des signaux aux entreprises. T'as certains objets qui ont été interdits, les couverts en plastique par exemple, les sacs plastiques très fins, etc. Donc, tu as déjà certaines actions qui sont prises sur le court terme. Tu as certaines visions sur le long terme, effectivement, qui envoient quand même un message, même si ce n'est pas le message le plus ambitieux qu'on pouvait espérer, mais qui font que ce fameux triptyque est en train d'avancer, je trouve, quand même dans la bonne direction. Qui fait que, je suis d'accord avec toi, c'est compliqué cet acte d'achat circulaire ou cet acte d'achat responsable, mais de plus en plus de personnes se renseignent là-dessus. Ce qui fait que les entreprises font de plus en plus de produits durables. Tu sais, la marque Unilever, par exemple, annonce que ces marques durables, elles ont des taux de croissance plus de 50% supérieurs à leurs autres marques. Et en fait, je trouve que tout ça, ça va quand même dans le bon sens. Et je suis d'accord avec toi, l'État a un rôle central, mais il ne faut pas uniquement attendre de l'État, et il ne faut pas uniquement attendre des entreprises, et il ne faut pas uniquement attendre du consommateur, de l'individu. C'est l'ensemble de ces trois qui, peu à peu, fait bouger la machine et la fait évoluer dans le bon sens.
Et il y a une dernière dimension qui me semble... Enfin, dernière dimension, en même temps, qui est majeure, attention. Je ne dis pas dernière dimension en disant que c'est vraiment la dernière roue du carrosse, mais en fait, elle est centrale, qui est la partie sociale. Tu vois, quand on parle de RSE ou de CSR, il y a évidemment une partie environnementale, mais il y a aussi une partie sociale qui est majeure dans l'accompagnement d'une réduction une réduction de la différence des niveaux de vie, mais aussi, par exemple, quand on a généré de la monoculture dans un pays, admettons, et en France, en Europe de manière générale, enfin dans les pays occidentaux de manière générale d'ailleurs, on est assez fort pour externaliser nos externalités négatives, on va dire, je sais pas si ça veut dire quelque chose, mais en tout cas, aller polluer ailleurs et se gargariser du fait qu'on réduit notre consommation d'énergie, par exemple en France, mais parce qu'en fait, on envoie nos ordures, alors maintenant la Chine, ils n'en veulent plus, mais on a envoyé pendant des années nos ordures en Chine, etc., etc., pour réduire l'impact sur le sol français, mais que voilà, à la fin. Et en fait, là où je veux en venir, c'est il y a un besoin d'accompagnement des personnes dans les endroits où on a généré de la monoculture, où on a généré une économie, parce qu'en fait, du coup, ces personnes-là, elles vivent de cette manière aussi. Et il faut pouvoir les accompagner. Donc, comment on fait je sais bien que tu n'as pas toutes les réponses et c'est une question qui est assez complexe, mais en tout cas, comment toi, t'envisages l'accompagnement des personnes dans les zones où on a généré, alors, soit de l'agriculture intensive, soit par exemple des pays qui se sont construits sur l'extraction de minerais. Comment on fait pour accompagner ces personnes-là?
Alors déjà, j'aimerais juste rebondir sur quelque chose que tu as dit, ouais. Qui est tous ces pays émergents, en fait, ils ont une formidable opportunité d'aller beaucoup plus rapidement que les pays dits développés sur de l'économie circulaire.
On le voit en Afrique,
ils
d'ailleurs.
Ils n'ont pas encore bâti cette industrie. Comment, excuse-moi ?
Je dis pardon, je t'ai coupé, mais je dis, on le voit sur le continent africain, d'ailleurs. Ils sont même exemplaires pour nous, je pense, de ce côté-là.
À beaucoup de niveaux, en tout cas. Et il y a un lien entre le social et l'environnemental qui est beaucoup plus fort dans ces pays-là, et c'est vraiment intéressant que tu le mentionnes. Donc, ils ont en fait sa capacité de faire ce qu'on appelle le leapfrog, tu sais, nous on a fait Minitel, téléphone fixe, tu vois, on a eu plusieurs étapes avant d'arriver sur le téléphone portable avec internet. Eux, ils sont allés directement sur le téléphone mobile,
et c'est ça qu'on appelle le leapfrog, c'est ça,
hein. Ouais, exactement. Et sur l'économie circulaire, je pense qu'ils ont l'opportunité de faire la même chose. Ils ont pour l'instant, tu prends les pays émergents, tu prends l'Afrique par exemple, il y a que l'Afrique du Sud qui utilise plus d'une planète de ressources par an. Tous les autres pays, ils sont inférieurs. Ça veut dire que pour l'instant, ils n'ont pas encore un impact néfaste parce qu'ils n'ont pas encore développé suffisamment d'industrie sur un modèle linéaire. Donc, il y a vraiment une formidable opportunité d'aller directement vers l'économie circulaire. Et je pense qu'en plus, c'est facilité par pas mal de prédispositions et de cultures dans ces pays que nous, on a un petit peu perdu, qui va être la culture du réemploi. Tu vas à Cuba et tu vois des voitures qui roulent depuis 50 ans parce que par nécessité, les gens ont développé une vraie culture du réemploi et de la réparation. C'est-à-dire que réparer ton téléphone dans ces pays-là, ben évidemment que ça fait sens, et évidemment que tu vas pas avoir, ils vont pas jeter leur téléphone parce que la batterie ne fonctionne plus. Et tu vas avoir aussi une culture de la collaboration qui peut mettre en place de l'économie collaborative beaucoup plus rapidement que dans nos pays-là, que dans nos pays du Nord ou du développé, enfin peu importe. Et donc je pense que on a une formidable opportunité dans ces pays-là de shifter vers un modèle circulaire. Le problème, c'est qu'on a besoin de changer, et je pense que c'est fondamental, ce qu'est la réussite, entre guillemets. Parce que si la réussite, c'est avoir, je ne veux pas schématiser, mais c'est avoir un gros 4x4, etc., etc. Enfin, je caricature, mais si on garde ça comme modèle de réussite et comme
point de mire, en fait.
Comme point d'arrivée, bah, effectivement, ça va être compliqué parce qu'ils vont tendre vers ce mode de développement. Si on arrive à changer par la culture, par l'information, par énormément de moyens, ce qui est justement ce point d'arrivée, on a de formidables opportunités dans ces pays-là d'aller plus rapidement vers ces nouveaux systèmes. Et je pense qu'il y a des pays comme la Chine qui, certes, polluent énormément, mais qui ont fait une loi économie circulaire à la fin des années 2000, qui sont mis assez tôt sur ces sujets. Et c'est un peu une forme d'espoir de se dire qu'on peut espérer que ces pays, de toute façon, eux et cette intelligence d'aller vers ce type de modèle, et comment nous, entre guillemets, on peut les accompagner là-dedans, c'est leur donner suffisamment d'informations, partager l'innovation, être le plus possible justement en open innovation pour partager tous ces développements qu'on peut faire autour de nouveaux packaging, etc., pour espérer un développement qui soit plus responsable. Le dernier point que je veux dire, c'est très important ce que tu as dit, c'est comment tu lis finalement le social et l'environnement. Mais dans ces pays, c'est fondamental. En fait, tous les projets qu'on a vus qui sont circulaires et environnementaux, ils ont une grosse dimension sociale. Parce que si tu vas en Inde et tu dis tiens, ne jetez plus ici, jetez ici, parce que ça a un mauvais impact sur l'environnement, et c'est, je sais pas, si tu jettes là-dedans, ce sera pas recyclé, je dis n'importe quoi. En plus, ce qui est pas vrai, parce que tu vas avoir quand même des collecteurs, mais peu importe. Donc si vraiment tu t'appuies uniquement sur la dimension environnementale, bah évidemment des gens qui ont pas assez, qui savent pas comment se nourrir, se vêtir ou autre, ils vont pas faire cet acte-là. Mmh. En revanche, si tu arrives à lier ton acte environnemental de tri, par exemple, avec un acte social, tu pourras charger ton téléphone, tu pourras accéder à l'éducation ou autre. Là, tu vas pouvoir réussir à créer une boucle vertueuse. Donc tu as vraiment besoin d'allier le social et l'environnemental, et c'est vraiment ce qui est en train de faire dans ces pays, et c'est aussi, je pense, quelque chose dont on peut s'inspirer.
Et pour rebondir, parce que quand tu prends l'exemple de certains pays africains, l'idée, c'est pas, parce que je pense qu'il y a un certain nombre de personnes qui doivent se dire, mais moi j'ai pas du tout envie de vivre, enfin tu vois, qui vont avoir cette idée de retour en arrière, tu vois, de se dire mais en fait moi j'ai pas envie de vivre comme on vivait il y a x centaines d'années. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est, enfin je crois, tu me diras, mais que c'est pas le cas. En fait, l'idée, c'est de dire que bien sûr que l'idée, c'est de garder un certain niveau de confort pour tout le monde, donc de monter le niveau de confort dans certains pays africains ou en Inde ou ailleurs, et de réduire, sans doute, mais parce qu'il est superflu, un niveau de confort dans les pays occidentaux.
Oui, alors, je ne sais même pas si c'est finalement réduire un niveau de confort. En fait, en tout cas, c'est fonctionner différemment. Mmh. Et tout à l'heure, tu évoquais le bonheur et le bonheur qu'on peut avoir d'acheter un nouveau téléphone. Alors, je pense que tu as d'autres invités qui seront peut-être plus spécialistes sur des sujets philosophiques comme ça. Mais est-ce que c'est du vrai bonheur moyen long terme que d'avoir un nouveau téléphone, ou est-ce que tu génères pas un bonheur très court terme et ensuite peu importe? Est-ce que le bonheur, tu vas pas plutôt le trouver dans les relations sociales, dans le fait de progresser sur certains sujets et énormément d'autres thématiques? Donc oui, je pense qu'on a besoin de réinventer la façon dans laquelle on vit et la façon dans laquelle on consomme. Je pense pas forcément que ce soit forcément une réduction du confort, entre guillemets. Mmh. C'est juste une autre manière d'aborder les choses. Et justement, je pense, hein, d'aller plus rapidement vers du bonheur. Dans certains pays émergents, et même d'ailleurs dans nos économies, hein, il y a effectivement une partie de la population qui a besoin d'arriver à un niveau de confort suffisant, de nourriture, d'éducation, de vêtements, d'habitat et autres.
En fait, je disais ça, c'était un petit peu de manière provocative, évidemment, parce que moi, la manière dont j'envisage, c'est de dire que il y a deux choses, il y a le bien vivre et le bien-être, et sans doute que il y a toute une partie de bien vivre qui va effectivement se réduire, mais qui est complètement superfétatoire, donc en fait, qui est pas du tout nécessaire. Donc en fait, je pense que les gens ne s'en rendraient même pas compte, en fait, dans leur quotidien. Tu vois, voir, ils prendraient du plaisir. Enfin, moi, j'en suis convaincu que tu prends du plaisir et que tu regagnes de la confiance en toi quand tu répares, quand tu fais des choses avec tes mains. Et par contre, t'améliores de manière monumentale ton bien-être. Et la confiance en soi, je la place dans le bien-être, évidemment, et évidemment le bien-être de toute la population au niveau mondial. Et c'est vraiment, enfin, pour moi, là où on doit en venir finalement.
Écoute, je suis absolument d'accord avec ce que tu as dit, et je t'avoue que là, pour le coup, j'ai pas grand-chose à ajouter.
Non, mais voilà, c'était juste. Ce podcast s'appelle Vlan, donc je voudrais savoir à quoi tu veux ouvrir et où claquer la porte.
Écoute, j'ai envie de, évidemment, et donc ça, je réponds de manière très bateau sur claquer la porte à l'économie linéaire. Hein. Je pense qu'on a un besoin fondamental de réinventer notre économie. Et donc, on a besoin de toute façon d'arrêter cette utilisation intensive de ressources non renouvelables et cette production exponentielle de déchets avec tous les impacts que ça peut avoir. Mmh. Et j'ai vraiment envie d'ouvrir la porte sur un sujet en particulier qui est le niveau d'information et même, je dirais, l'éducation. Je suis persuadé que si, dès le plus jeune âge, on est éduqué et sensibilisé à ces sujets environnementaux et d'économie circulaire, on va de toute façon baigner dans un environnement un petit peu différent et avoir des modes de pensée alternatifs qui vont faire qu'on va pouvoir se développer de manière intelligente. Et de toute façon, on l'a dit, hein, la nature a réussi à créer un système qui ne produisait pas de déchets. Et moi, c'est vraiment le message d'optimisme que j'ai envie de faire passer, c'est je suis convaincu qu'on est capable, nous, êtres humains, nous, organisations, de créer une société, une économie qui fonctionne de la même façon. On a besoin de regarder ce que fait la nature, on a besoin de s'en inspirer. Et je pense qu'on a assez d'intelligence pour créer un système qui utilise intelligemment les ressources, qui ne crée pas le déchet, tout simplement comme la nature peut le faire. C'est vraiment le message que j'aimerais passer et l'ouverture que j'ai envie de donner. On part de l'éducation pour arriver à ce nouveau système qui nous permettra, je pense, de mieux vivre, d'être plus heureux. Et de pouvoir continuer à vivre pendant des millions d'années comme peut faire la nature.
Super. Merci beaucoup, Gilles.
Merci, Grégory.
Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram Stories, Facebook, LinkedIn, où vous voulez. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg from Paris. Si vous avez des idées pour des invités, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Allez, merci et à bientôt.